les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation comme chaque vendredi. Le sujet du jour, enseigner et faire aimer les mathématiques. Les maths, c'est pas une matière comme les autres et le problème commence dès l'école primaire. En France, un tiers des instituteurs déclarent ne pas aimer enseigner les maths et dès 7 ans, certains élèves s'estiment déjà nuls en maths. Et il faut dire que le niveau des petits Français arrive loin derrière ceux de Singapour. Alors comment enseigner et faire aimer les mathématiques? Une question cruciale dans un monde où la technologie est partout. Nous en parlons avec nos invités passionnés de maths et quant à vous les voisins, si vous êtes enseignant, si vous êtes un traumatisé des maths, vous avez la parole. Dites-nous comment sont considérées les maths dans votre pays. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone sur WhatsApp. Et vous pouvez envoyer des messages écrits. Et en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, elle répondra à cette grande question. Existe-t-il une bonne manière de s'occuper des bébés ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de problèmes mathématiques encore ouverts.
Ça ne te dit rien ?
Même les plus grands mathématiciens n'ont pas encore trouvé la solution.
Si je comprenais quelque chose en mathématiques, j'aurais fait l'artillerie comme Bonaparte.
Maman, je te présente Monsieur Messier, mon prof de maths.
Bonjour, madame.
Ah, bonjour.
Le nombre chromatique du plan.
Je ne comprends pas.
La persistance multiplicative des nombres.
On ne comprend rien !
Et on peut continuer comme ça.
C'est une certitude mathématique.
Vous voulez que vous l'explique au tableau ?
Ah bah alors là, il n'y a pas tout. Alors là, c'est mathématique, là, c'est scientifique, mais...
21 sur 20.
Bah non, bah là, y a pas, hein, ça va pas. Hein.
Parfois, c'est impossible.
Et sur Facebook, c'est un déferlement de souvenirs et de regrets de nos amis voisins. Un voisin Yaoundé au Cameroun nous dit « Le plan est muni d'un repère orthonormé AIG. J'ai failli abandonner les études en classe de 3e à cause de cette phrase. Je veux bien comprendre des choses en mathématiques, mais à chaque fois je me heurte à tous ces X, ces Y qui donnent Z et je n'y comprends rien. Je maudis celui qui a eu l'idée de créer des mathématiques. » Émile à Lubumbashi, dans le sud de la RDC. « Pour moi, les maths, c'est un bruit assourdissant. Je détestais tout, les profs, les heures, la leçon. Lilia, les maths, c'est compliqué parce que c'est abstrait, j'ai jamais compris à quoi ça servait concrètement. C'était pour moi qu'un casse-tête sans objectif. » Ou encore Aminata, à Kai, au Mali. Le jour, notre prof de maths nous a dit « Si vous êtes nul, ne venez pas en cours. Je n'ai pas envie de gaspiller mon temps pour des nuls. » Eh ben, j'ai arrêté d'aller en cours. Manque de peau, le prof l'a dit à mon père, qui m'a passé un savon. Conclusion, je déteste les maths. C'est un raisonnement mathématique. Merci Aminata. Martin, à Maroua, au Cameroun, dans le Nord, au lycée, j'accordais plus d'importance aux matières littéraires. Aujourd'hui, je me rends compte que ceux qui sont en fac de maths sont bien mieux considérés que nous. Je regrette de ne pas avoir choisi une filière scientifique. Réponse d'Hassan, à Lomé, au Togo. Mais les maths, c'est pas si difficile. Et surtout, c'est la seule matière où tu peux avoir 20. Le débat est ouvert avec, bien sûr, nos invités. Appelez-nous, on a envie d'en discuter avec vous de vive voix. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Parce que nous sommes tous des voisins.
Sanou nous appelle de Kédougou au Sénégal. Vous êtes à près de 700 km de Dakar. Vous êtes enseignant à l'école primaire, élémentaire, c'est bien ça, Sanou ?
Oui, c'est ça. Voilà. Bonjour à tous les voisins et les voisines.
Eh bien, vous êtes le bienvenu, Sanou. Est-ce que vous avez pu entendre là dans le téléphone tous les témoignages que j'ai lus, qui ont été postés sur les réseaux sociaux ? Des témoignages quand même bien souvent de douleur, il faut bien le dire, Sanou.
Oui, c'est ça, c'est ça. Quand j'ai entendu tous ces témoignages, bon, je m'identifie à travers ces témoignages parce que tout élève qui n'était pas excellent dans les mathématiques, il a confronté ces difficultés, que ce soit au lycée ou bien au collège.
Mais alors vous, en tant qu'instituteur, comment vous vous situez par rapport aux mathématiques ?
Bon, voilà, en fait, maintenant, c'est après que j'ai commencé à enseigner que je me suis rendu compte que les mathématiques, contrairement à ce qu'on pensait, n'étaient pas quelque chose de si difficile, quelque chose de si diabolique, si vous me permettez l'expression. Parce que ici, à l'élémentaire, bon, ici, depuis qu'on a institué le curriculum de l'éducation de base, ici, l'éducation se passe fondamentalement à partir du concret. Et nous, ici, à l'élémentaire, on s'est rendu compte que les élèves, nos élèves en tout cas, ils sont beaucoup plus enthousiastes dans les disciplines de mathématiques, que ce soit l'arithmétique, l'activité géométrique, la mesure ou quelque chose comme ça, tant que dans les autres matières. Parce que, tout simplement, ces matières leur permettent en tout cas de participer mieux, en tout cas d'être au cœur de l'apprentissage.
C'est ça, c'est-à-dire que l'enseignement des maths, les élèves sont au cœur de l'action, ils sont moins passifs, ça veut dire que vous avez des méthodes en particulier pour que les élèves soient très actifs ?
Oui, ici, la principale méthode, c'est de passer par la concrétisation. En tout cas, ici, tout ce que nous enseignons, on passe par le concret. Par exemple, si on utilise des situations, c'est les situations du milieu. Qui sont en rapport avec le quotidien de l'enfant. Alors, c'est ça qu'on utilise. Parfois aussi, on est obligé aussi d'utiliser des matériels d'assemblage, par exemple des cartons. Si on dit, par exemple, un élève un triangle, de tracer un triangle, on lui oblige également de découper un papier en forme de triangle. Là, ensuite, après, on lui explique à quoi sert un triangle. À chaque jour, il est en contact avec des triangles, quelque chose du genre.
Ouais, avec du carton et avec des ciseaux, on est déjà entré dans les mathématiques pour vous, Sanou. En l'occurrence, là, dans la géométrie. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kédougou au Sénégal. Monica Niagoy, vous êtes en liaison technique avec nous à Nice grâce aux moyens techniques de France Bleu Azur. Bonjour à vous.
Bonjour madame.
Vous avez entendu les témoignages que j'ai lus, ils ne vous surprennent pas, je pense. Vous êtes spécialiste de la didactique des mathématiques, vous êtes directrice de la nouvelle adaptation de la méthode de Singapour au programme français du CP au CE2. Vous avez été membre de la mission Villani-Torossian qui avait rendu un rapport alarmant sur la situation en France il y a quelques mois. Alors il faut le dire, chez nous en France, on est quand même dans une position assez singulière parce qu'on a un grand mathématicien comme Cédric Villani qui a l'oreille du président de la République, qui se lance dans une carrière politique et en même temps, on est tout dans un pays qui bat les records du monde de médailles Fields, c'est-à-dire le Nobel des maths, on est juste derrière les États-Unis. La recherche française en maths est connue dans le monde entier et le niveau en maths des élèves ne cesse de baisser depuis 15 ans et semble-t-il que nos méthodes, notre approche des mathématiques d'ailleurs a des répercussions, y compris dans les pays francophones, en Afrique francophone. Alors qu'est-ce qui se passe ?
Oui. Ça ne veut pas dire qu'en France, nous ne pouvons pas être les meilleurs du monde et que nos enfants peuvent absolument être la réflexion de l'excellence de nos mathématiciens. Nos enfants sont capables, nos professeurs sont capables. Ça, c'est le premier message, parce que je sais que c'est très déprimant pour eux d'entendre tous ces résultats, mais ce n'est ma prémisse, mon hypothèse, c'est que tout enfant est capable de réflexion mathématique. Il y en a qui vont être plus avancés, plus rapides, mais tout le monde peut penser. Et si nous enseignons aux enfants comment réfléchir, comment penser, comment raisonner, comment s'investir et rechercher, tout élève est capable. Et si nous aidons nos professeurs qui sont désireux d'apprendre et d'enseigner et de faire aimer, pour les accompagner avec les outils nécessaires, les formations de qualité, les formations de quantité, parce qu'on ne peut pas quelques heures par an, ce n'est pas suffisant. Si on leur donne ce dont ils ont besoin, ils sont absolument capables de briller et de faire et d'allumer la flamme mathématique chez eux et chez leurs enfants.
Mais est-ce que dans tous les pays, on trouve autant d'élèves qui nourrissent un ressentiment contre cette matière,
oui,
Monica
oui,
Niagoy, je vous pose la question à vous, qui êtes d'origine anglophone.
Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait commun. Je travaille dans beaucoup de différents pays, sur beaucoup de continents, enfin sur de nombreux continents. Et tout le monde... D'ailleurs, il y a des études et qui sont très communes et qui disent, par exemple, je ne comprenais pas les raisons. J'explique les raisons typiques pour ne pas aimer les maths. Ça allait trop vite. J'avais peur de poser des questions. J'avais peur d'avoir l'air stupide, bête. J'avais peur d'être humiliée parce que je ne savais pas.
Preuve que les maths, c'est vraiment une matière à part, parce qu'on ne va pas trouver ce type de témoignage pour l'enseignement de la langue maternelle, pour l'enseignement de l'histoire ou de la géographie ou d'une autre matière. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier.
Tout à fait.
Sylvie Desclèbes, vous êtes en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'un établissement scolaire Montessori Athéna à Bailly. Oui. Ça se situe dans les Yvelines, en région parisienne. Et vous avez créé le centre de formation Apprendre Montessori. Vous publiez aussi des cahiers d'activités Montessori, notamment sur les maths, sur le calcul, les petits Montessori à la librairie des écoles. Est-ce qu'il y a une curiosité naturelle des enfants pour les nombres et les formes géométriques? Parce qu'on avait cet instituteur Sanou à Kédougou, au Sénégal, pas dans un établissement forcément favorisé, qui nous disait, mais en fait, les enfants adorent ça, c'est très ludique, ils s'amusent beaucoup, ils sont actifs. Alors, est-ce qu'il y a cette curiosité naturelle et à quel âge surviennent les problèmes, ou plutôt les traumatismes?
Je pense en effet qu'il y a cette curiosité naturelle des tout-petits, puisque nous, on a les enfants de maternelle, et des 3 ans, 4 ans, ils aiment beaucoup les maths.
Et ils réclament les maths?
Ah oui, ils demandent, mais parce qu'il y a du matériel concret. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur qui est intervenu, c'est que les enfants ont besoin de concret pour faire les maths, pour étudier les maths. Et le souci, c'est que c'est enseigné d'une façon beaucoup trop abstraite.
Mais alors, à quel âge arrive la peur des mathématiques, vous diriez?
Et à quoi c'est dû? Nos écoles Montessori, puisqu'on en a plusieurs et qu'on constate la même chose, et depuis 30 ans, les enfants n'ont pas peur des maths, avec la manipulation, avec ce matériel, avec aussi, c'est tout à fait vrai ce que disait Monica sur l'antenne, c'est que chaque enfant apprend à un rythme différent, et je pense qu'il faut faire une méthode plus individualisée, parce que c'est vrai que quand ils apprennent tous ensemble, c'est là où ils se rendent compte qu'ils sont en échec, qu'ils comprennent moins vite.
Ça, c'est quand même le mot qui fait peur aux profs, méthode individualisée, quand on a plus d'une trentaine d'enfants en classe. Monica Niagueuil, je vous pose la question à vous, à quel âge surviennent les problèmes et à quoi c'est dû dans l'enseignement des mathématiques?
Alors, ça advient un peu trop tôt. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de me dire madame, que les enfants viennent à nous très curieux, très avides de mathématiques.
Mais à quel âge arrivent les problèmes et pourquoi?
Au primaire, les fractions et les décimaux est un premier grand obstacle. Quand on me dit que pour diviser de fractions, je dois inverser la seconde pour multiplier, ça n'a pas de sens. Et quand je ne comprends plus et je perds le sens et je dois mémoriser, alors c'est le début de la fin de mon amour pour les maths. Après ça, c'est l'algèbre au collège. Quand je commence à remplacer les nombres par des x et des y, comme on a entendu au début, et je demande c'est quoi x, et on me dit n'importe quel nombre, ça n'a pas de sens parce qu'on a été trop vite vers l'écriture symbolique. Et au lycée, si on a tenu jusqu'au lycée, le troisième grand obstacle des mathématiques scolaires, c'est les dérivées et les intégrales. Je ne comprends pas et j'abandonne. Voilà les trois dans la discipline. Je parle de la discipline, c'est-à-dire la matière. Maintenant, pourquoi ça commence si jeune? À 7 ans et à 8 ans, on entend trop d'élèves, trop d'enfants dire « je suis nul, je suis pas matheux », alors qu'il n'a même pas encore découvert la beauté des mathématiques, c'est parce que quelqu'un dans son environnement l'a fait croire qu'il n'est pas capable. Et quand je perds la confiance, parce que je suis jeune, je suis émotif, et si les adultes autour de moi me disent ou me donnent le signal que je suis pas bon, c'est fichu. Je suis perdue.
Ça veut dire qu'on passe trop vite à l'abstraction par rapport au développement naturel de l'enfant.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord avec ça, Sylvie Desclèbes?
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est pour moi la clé. C'est qu'on passe beaucoup, beaucoup trop vite à l'abstraction. Quand on parle des fractions, mais c'est tellement facile avec un matériel concret, avec des manipulations. Quand on parle des décimaux, c'est la même chose. Quand on parle des nombres relatifs, c'est la même chose.
Ouais. Ce qui n'empêche pas, avec la méthode Montessori, vous abordez les quatre opérations, soustraction, addition, division, multiplication. Dès quel âge?
On commence en maternelle, mais on commence uniquement avec du matériel concret. On ne va pas leur faire écrire sur un papier. On commence avec du mouvement, on leur montre ce que c'est qu'une opération.
La division, c'est le partage.
Voilà,
le partage
la division. On prend le matériel Montessori qui a été créé scientifiquement par Maria Montessori, qui est un matériel
avec
des
perles.
Cette pédagogue
du début du XXe siècle, italienne.
Voilà, et on prend le matériel, on prend 4 enfants, 5 enfants, et on va faire un partage de ce matériel. On va donner autant à chacun, le résultat c'est ce qu'un enfant a.
Et l'enfant, apprend que c'est l'action de la division.
Oui, oui, on va faire une division.
Si jeune, donc avant 6 ans.
Ah oui, oui, parce que c'est essentiel de donner toujours les bons mots, hein, même en mathématiques.
D'ailleurs,
oui, je vous en prie, Monica Niagoy.
Oui, je vais continuer parce que c'est exactement en construisant sur ce qui vient d'être dit, au CP avec la méthode de Singapour ou toute bonne méthode, on continue à cultiver le sens de ces opérations qu'on appelle avancées, comme la multiplication et la division. Et on peut même aller plus loin parce que les profs apprennent à l'université, par exemple, la division quotition, la division partition, ce sont des mots durs et on ne comprend pas. Les enfants à 6 ans, on leur donne 15 pommes. Il y en a un qui va prendre 3 saladiers et donc il va diviser les 3 pommes équitablement parmi les 3 saladiers, donc division partition. Et un autre va dire, je vais faire des petits bols de 3 pommes et je compte combien de bols il me faut pour mettre 15 pommes. Donc les enfants jeunes peuvent faire des groupements de 3, 3, 3, 3, 3, ou peuvent diviser, partager équitablement, et ils comprennent déjà à 6 ans les deux sens de la division, partition et quotition. C'est magique, parce que c'est concret, parce que c'est réel et parce que c'est lié à la vie de tous les jours.
Sylvie Desclèves, vous n'êtes pas d'accord?
Si, je suis d'accord, mais c'est tout à fait vrai qu'il faut que ce soit logique et qu'il faut que ce soit relié à leur vie. Et il faut qu'il y ait du matériel, quoi. Il faut que ce soit concret. Pour moi, c'est voilà, essentiel que ce soit concret, que ce soit manipulé avec leurs mains, quoi. Qu'ils le fassent avec leurs mains, qu'ils le vivent et qu'on ne leur donne pas des trucs. C'est eux qui doivent déduire les règles, c'est eux qui doivent déduire comment on fait les choses. C'est essentiel aussi de ne pas leur donner des règles, justement, apprendre par cœur, on multiplie par l'inverse et tout ça. Là, c'est trop abstrait.
Et cette étape du... Excusez-moi, oui. On ne peut pas être plus d'accord. Cette étape de la concrétisation, tout ce qui est matériel, visuel, de ce que je prends, ce que je touche, ce que je plie, ce que je colorie, ce que je construis, ce que je pèse, ça, c'est indispensable. Et cette étape du concret, de l'actif, on le brûle trop vite. On passe et on dit, bon, ils savent. Non. Piaget dit qu'entre 7 ans et 11 ans, l'enfant est dans le stade des opérations concrètes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas développer la pensée abstraite, mais le cheminement vers l'abstrait est lent et progressif. Et si nous brûlons cette étape de concret, et nous brûlons l'étape d'imager, de verbaliser, de partager, de dire ce que, de toute cette discussion des collaborations, et on passe trop vite à ces petits symboles sur la feuille de papier écrit par de l'encre assis tout seul sur un papier, c'est là la mort des maths.
Alors, et c'est trop vite. Il faut bien comprendre que quand vous utilisez le mot concret toutes les deux, ça veut dire manipuler, parce que ça pourrait être concret avec un dessin sur un papier, mais moi ce que je comprends dans les exemples que vous donnez, c'est qu'on manipule avec les mains et pas seulement avec un stylo sur une feuille blanche.
Pour nous les voisins, c'est comme une seconde famille.
Ouais.
7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.
On va donner la parole à Raïssa Malou qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de mathématiques et de physique en Belgique, dans le secondaire et en université. Et vous êtes aussi ambassadrice pour la RDC, votre pays d'origine, du Next Einstein Forum, et dont on parle souvent sur RFI, qui est vraiment un rassemblement de scientifiques africains qui fait le pari de la science sur le continent africain. Et également, vous présidez la semaine de la science en RDC. Dans un pays qui manque de tout en matière d'éducation de base, à commencer par des enseignants bien formés. Est-ce que le niveau en maths au Congo a tendance à baisser, y compris dans les bonnes écoles, comme ce qu'on constate en France?
Alors, donc, je suis aussi responsable d'un projet au sein du ministère congolais de l'éducation pour améliorer justement la qualité de l'enseignement des sciences et des mathématiques au secondaire supérieur. Et il est vrai que lorsque l'on voit, donc c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, quand on voit en fait les résultats des examens je veux dire, examens d'État, donc les examens en fin du secondaire, on voit qu'effectivement une baisse du niveau en mathématiques. D'abord, dès le primaire, très certainement, sur la plupart des tests, et aussi dans l'enseignement secondaire. Par exemple, au Congo, dans les filières scientifiques, donc on a biochimie et maths physique, et on voit par exemple que la filière maths physique est en train de disparaître. Il y a de moins en moins d'élèves qui s'inscrivent dans cette filière au profit de la filière biochimie. Donc c'est clair qu'il y a un souci à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle, justement, au sein du ministère de l'Éducation, on a ce projet où ce que l'on fait, parce que donc là, je rebondis sur vos deux précédentes interlocutrices, c'est qu'on est justement en train de modifier l'approche. On adopte pour les mathématiques une approche où on va contextualiser cet enseignement des mathématiques. On va le rendre concret, on va surtout lui donner du sens. Parce qu'évidemment, le problème avec l'enseignement des maths, c'est pas tant qu'on n'aime pas les maths, mais ce qu'on n'aime pas, c'est la manière dont elles sont enseignées dès l'école primaire, dès l'école secondaire.
Oui, oui.
Alors... Et nous, on veut agir là-dessus. C'est vraiment au niveau de l'approche pédagogique, en prenant une approche où on va traiter les mathématiques dans des situations qui ont du sens, qui sont concrètes, qui sont contextualisées à la RDC, contextualisées à ces jeunes, qu'à ce moment-là, on a...
Comment vous dites contextualiser à la RDC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les jeunes, les étudiants par exemple, c'est une matière qui est importée, qui vient de l'extérieur?
C'est un sentiment qu'ils ont, effectivement. C'est d'avoir cette impression que, voilà, ça vient d'ailleurs, ça nous est imposé, on ne voit pas à quoi ça sert, ça ne va pas nous servir dans la vie de tous les jours. Mais je dis, mais attends, tu as besoin de maths, ne fût-ce que si tu veux t'occuper de ton champ, que si tu veux construire une maison, que si tu veux faire de l'art, dans la musique. Et donc, ce sont dans tous ces éléments où on est en train de former les enseignants pour qu'ils utilisent justement les éléments de la culture, les éléments de la vie de tous les jours concrète à ses enfants pour qu'ils se rendent compte que les mathématiques, c'est aussi quelque chose de culturel. Ça vit avec la culture, ça vit dans les gens. Et c'est donc à partir de là qu'on suscite leur intérêt et qu'après on peut construire les savoirs.
Encore faut-il avoir des enseignants bien formés et avec quelle méthode pour montrer que les mathématiques, c'est concret et que ça sert à quelque chose. Énormément d'appels au standard. Alors si vous le permettez, on va donner la parole à nos auditeurs qui nous appellent au 33 1 84 22 71. Je vous demanderai à vous tous, si vous avez des questions, évidemment, d'aller droit au but et d'être bien synthétique pour pouvoir que l'on puisse laisser la parole à un maximum d'entre vous. Une voisine nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Rufina.
Bonjour Emmanuel Bastide. Rufine. Merci pour l'invitation.
Eh bien écoutez, on est ravis de vous avoir au téléphone. Vous avez été prof de SVT, prof en sciences de l'éducation. Vous souhaitez vous exprimer sur l'utilité des mathématiques, parce que ça aussi, ça revient beaucoup dans les questions, dans les témoignages des auditeurs, Rufina.
Oui, effectivement, les mathématiques sont utiles. Les mathématiques sont utiles dès la prime enfance, parce que une personne doit avoir... voire acquérir des connaissances. Et là, c'est au niveau de la famille même que nous devons commencer à faire aimer les mathématiques par les enfants.
Vous avez fondé une association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie. Vous animez une émission sur les sciences et sur les maths. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous dites aux jeunes très concrètement pour qu'ils s'intéressent aux mathématiques, en un mot?
Cette association, c'est effectivement la promotion des sciences et de la technologie, SMT. Ce que nous faisons, c'est des activités. Et parmi ces activités, nous avons même une émission radiophonique que nous animons tous les 15 jours qui s'appelle Destination Science. Et cette émission radiophonique, c'est pour que les jeunes puissent oser les maths, puissent vivre les maths. Et notre slogan, c'est « Osons les maths, vivons les maths ».
Osons les maths, vivons les maths. Merci beaucoup, Rufina, de nous avoir appelés. On est en ligne avec Frost, qui nous appelle de Cotonou. Vous êtes très, très nombreux à souhaiter vous exprimer aujourd'hui. Bonjour, Frost, vous êtes au Bénin.
Oui, bonjour, madame.
Frost, vous avez une histoire particulière avec les maths, parce que je crois que vous n'étiez pas spécialement intéressé par la matière et pas spécialement bon, et vous êtes tombé amoureux des maths en classe de 3e. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça donne de l'espoir.
Oui, bon, voilà. Oui, 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 exactement. C'est-à-dire que de la 6e jusqu'en 3e, j'ai eu des professeurs qui m'ont donné le dégoût total de faire les mathématiques. C'est-à-dire que pour eux, ils venaient en classe, ils insultaient, on ne pouvait même pas poser la question, on nous grondait. Donc, on n'avait pas vraiment le goût de faire les maths parce que les profs, déjà eux-mêmes, ne nous donnaient pas cette envie-là. Et en 3e, j'ai eu un répétiteur qui m'a donné exactement le contraire, c'est-à-dire qui a premièrement démystifié le fait que les mathématiques c'était compliqué. Et à travers lui, j'ai appris que bon, c'est une belle chose et donc je me suis mis. Concrètement, je dirais que je n'avais pas confiance parce que pour moi, les mathématiques, bon, c'est des choses. Quelqu'un, il vient, il dit qu'il faut faire fraction sur fraction, ça donne ça. Mais le monsieur que j'ai eu comme répétiteur, il m'expliquait le pourquoi d'abord de la chose. Par exemple, pourquoi on doit faire ça? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Ça va nous donner quoi? Et ça, là, ça m'a donné le goût. Et en plus de ça, ce n'était pas quelqu'un qui était dans le refus. Jamais du tout. Quand tu posais une question, il était toujours disposé à te répondre. Oui. Et ça, ça m'a encore donné de la confiance. Oui. Et en plus de ça, il m'a montré que l'enseignant peut tout faire, mais ne connaît pas tout. Donc aussi, il faut consulter d'autres choses, c'est-à-dire d'autres matériels qui peuvent vous aider à comprendre au cas où vous n'avez pas compris, par exemple, avec l'enseignant. Et il m'a appris à, par exemple, consulter les livres. Il me prenait, il m'emmenait son livre où il résumait le cours qu'il me faisait à la maison.
Ouais, ouais. Ça fait partie de la démystification des maths, en effet, hein, ne pas placer forcément l'enseignant sur un piédestal. Merci beaucoup, Frost, de nous avoir appelé. Concernant les blocages en maths, Frost nous disait, bon, bah voilà, moi, j'ai complètement découvert les mathématiques dans la classe de 3e. On parle beaucoup depuis le début avec nos invités, Monica Niagoy, Sylvie Descleb, de l'école primaire, parce que c'est là que ça se joue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'en changeant de méthode, on peut amener des élèves plus âgés, qui ont déjà des cours de maths avec des professeurs de mathématiques, à régler certains blocages, Monica Niagoy?
Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur qui vient de nous partager son histoire. La passion est contagieuse du professeur. Donner un visage humain aux mathématiques. Par exemple, on est dans l'algèbre et on a A plus B au cube. Et on multiplie ce binôme au 3e degré. Ça semble terrible. Eh bien, on peut regarder et donner un puzzle, un puzzle qui a 8 morceaux et que l'on l'élève assemble avec beaucoup de joie et ça donne un gros cube. Et après, on décompose et on regarde que les éléments du polynôme qui sont des 8 termes, sont les expressions du volume de ces 8 morceaux qui donnent un gros cube. C'est fascinant.
Mais est-ce qu'on peut dire à des adolescents, on va jouer à un puzzle?
Pourquoi pas? Ce qui manque, c'est que l'histoire des mathématiques, quand on pense à la Grèce antique dont nous avons hérité tant de mathématiques, à l'époque, il y a 2500 ans, les mathématiques, c'était la géométrie était reine. Et quand on parlait de x au carré, on voyait un carré d'air x fois x dimension. Donc le carré était x2. Quand on parlait de xy, c'était un rectangle de dimension x et de longueur y, largeur, longueur, et c'était l'air. Et quand on disait x au cube, on voyait un cube de volume x au cube où les trois arêtes étaient x, x, x. C'est de là que ça vient. C'est pour ça qu'on dit x au carré et x au cube. Mais on a tellement divorcé l'origine concrète des mathématiques avec son abstraction qui est bien plus restreinte dans l'histoire. Et on veut donner aux enfants cette dernière étape en brûlant les étapes précédentes qui étaient humaines et réelles. Quand on réconcilie l'histoire, la réalité, le concret avec l'abstrait, c'est une belle histoire et une aventure. Et on les invite en ce chemin et ce voyage mathématique.
Je vous lis le message de Jean-Baptiste qui est étudiant en physique. Il est au Gabon. Il dit « Moi, je donne aussi des cours de maths à mon neveu. Sa mère lui a dit qu'il était nul en maths. Du coup, il fait un blocage. Moi, avec lui, je lui explique concrètement les fractions avec des parts de pizza. Et ça fonctionne. » Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont enthousiastes pour les maths et qui disent qu'on peut changer la donne. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Mathieu nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Où êtes-vous exactement?
Je suis dans la commune de Tambo à Kinshasa.
Eh bien, vous êtes...
l'une de... Je crois que c'est la plus vieille commune de Kinshasa.
Vous êtes le bienvenu, Mathieu. Vous êtes ingénieur, professeur de mathématiques.
Non, Emmanuel, je suis ingénieur électricien. J'enseigne l'électricité, la théorie des phénomènes électriques et magnétiques, entre autres. Mmh. Et j'utilise abondamment les mathématiques.
Ah bah oui.
Bah oui, là, je voudrais commencer...
Là, c'est concret, on sait à quoi servent les maths, la physique.
Oui, donc je forme des ingénieurs électriciens et électromécaniciens, et dans mes cours, j'utilise abondamment les mathématiques. Mmh. Je voudrais commencer par l'aspect qui me tient à cœur. Oui. D'abord, je vous remercie pour avoir organisé cette émission, parce que mine de rien, le développement ultérieur de l'Afrique, le développement technologique, ça tend au moins... dépend de la capacité de notre jeunesse à s'approprier les mathématiques. Mmh. Aujourd'hui, nous avons un outil extraordinaire dans le domaine, c'est l'ordinateur. Or, avec la modélisation numérique, avec la simulation numérique, nous pouvons résoudre plein de problèmes et nous tromper le moins possible dans le choix de nos options sur le plan infrastructurel, même sur le plan des équipements, sur tous les plans, parce que les mathématiques peuvent trouver des applications dans tous les domaines. Mm. Donc si nos jeunes, si la jeunesse africaine, et particulièrement la jeunesse congolaise, continue à se rebuffer des mathématiques, à considérer les mathématiques étant inabordables, l'utilisation de l'ordinateur comme outil de la modélisation et de la simulation numérique va nous échapper. Et ouais. ça peut compromettre notre développement technologique. Et je voulais commencer par cet élément qui me tient énormément à cœur.
On a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent également s'exprimer, mais je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Je vais donner la parole à Raïssa Malou, donc, qui travaille entre la Belgique et le Congo pour l'amélioration du niveau en mathématiques. Raïssa Malou, c'est vrai qu'on dit beaucoup aujourd'hui sur le continent africain qu'il y a une agilité, un appétit pour les nouvelles technologies numériques, bien sûr, des jeunes, sans qu'il y ait pour autant, mais ça, c'est pas spécifique au continent africain, c'est partout, sans qu'il y ait pour autant une compréhension profonde des mécanismes qu'il y a derrière l'informatique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le numérique, qui, en permettant la simulation notamment, c'est-à-dire que en permettant finalement le côté je cherche, je tâtonne, je me trompe, je refais, avec des expériences, est-ce que vous pensez que aujourd'hui le numérique peut aider à améliorer le niveau en mathématiques sur le continent africain, en particulier au Congo?
Oui, certainement, mais accompagné de l'enseignant, parce que de l'expérience que nous avons, c'est que forcément, c'est pas parce qu'ils ont accès au numérique qu'ils s'intéressent à comment ça fonctionne ou qu'ils se disent qu'ils vont s'en servir dans le cadre des apprentissages. Donc il y a un aspect important qui est en fait de former nos enseignants pour que le numérique soit intégré dans l'enseignement de ces matières, parce que les enfants sont plus aujourd'hui plus ouverts, plus aptes justement à utiliser ces outils, mais ils ont besoin de l'accompagnement de l'adulte à ce niveau-là. Mais permettez-moi juste d'insister sur deux points. C'est vraiment sur l'aspect de modèle et sur l'aspect du travail avec le père. Donc pour ce qui est des mathématiques, c'est vraiment important qu'on ait normalement de modèles africains auxquels les enfants peuvent s'identifier. Je vous donne juste un exemple. Dans le cas de la semaine de la science et des technologies, ce que nous faisons en fait, c'est que les animations, notamment mathématiques, elles sont réalisées par des élèves du secondaire que nous formons pour qu'ils deviennent les animateurs de ces animations-là. Et ben, à la sortie de la troisième édition, donc il y a 2 ans, il y a des élèves qui sont venus me demander, dites, Madame Raïssa, qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour devenir animateur comme ces élèves-là? Donc en termes de confiance en eux par rapport à cette matière, donc des mathématiques et des sciences, ils se sont dit, si ceux-là peuvent le faire, c'est que nous pouvons le faire aussi. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est tellement important d'avoir des modèles africains, de montrer à ces enfants qu'il y a d'autres qui peuvent le faire aussi, que pour redonner confiance en eux. La même chose que le travail avec les pères. On a par exemple le cas de l'école Malaïka, donc le professeur Jonathan Ezolé, qui est le Next Einstein Fellow pour la RDC, qui justement, il fait travailler, et c'est ce qu'on fait aussi au niveau du ministère de PSP dans la réforme, on fait travailler les élèves en groupe, en pairs, donc ils travaillent par les pairs, et ça, on voit que ça les stimule, parce qu'eux, ils peuvent adopter un langage, ils peuvent adopter une façon de faire, de réexpliquer les choses, qui font que les autres enfants se disent, ah oui, ok, d'accord, attends, j'ai compris, attends, on va essayer, attends, on va y arriver ensemble. Ouais. Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent très bien avec les mathématiques, que l'on voit dans nos classes, dans nos écoles, en RDC en tout cas,
ouais, alors,
pour le test.
Ça, c'est vrai. Alors là-dessus, ça fait toujours débat, mais ce n'est pas propre aux mathématiques, hein, sur le fait que quand on explique à l'autre, on mémorise mieux ce qu'on a compris, c'est vrai, mais avec les mathématiques, il y a le risque aussi de ne pas forcément employer les bons mots, de ne pas être suffisamment précis.
C'est pour ça que l'enseignant est important.
Oui, voilà.
C'est vraiment toujours encadré par l'enseignant. C'est comme pour le cas du numérique, etc. C'est pour ça que j'insiste bien sur une bonne formation de nos enseignants, ouais, que pour qu'ils puissent justement travailler avec les élèves en groupe, recadrer quand c'est nécessaire, s'assurer qu'on a le bon langage. Mmh. C'est vraiment un travail qui doit
être. Sur le travail des pairs, juste un petit mot, et après on va évidemment aborder la question de la formation des enseignants qui est cruciale. On a un auditeur là qui nous dit en RDC, de toute façon, tant que les profs sont aussi mal payés, comment on peut améliorer le niveau en mathématiques? Juste sur la question de la formation entre pairs, c'est-à-dire entre élèves, entre jeunes, Sylvie Desclèves, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi, je suis tout à fait pour. Bah, c'est pour ça que nous, dans nos classes, il y a le mélange des âges pour que les plus grands puissent expliquer aux plus petits. Et on se rend compte souvent, justement, qu'entre eux, ils ont des mots qui vont plus passer qu'un adulte. Donc, alors, moi, j'y crois beaucoup. Et puis, ça fait réviser le plus grand.
Depuis le début, on dit qu'il faut enseigner les maths comme une matière concrète, comme une matière qui a du sens, comme une matière où on manipule. Hein, c'est le cas de la méthode Montessori. Monica Niagoy, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots en quoi consiste la méthode de Singapour par rapport à tous les exemples qu'on a donnés et en quoi elle est adaptable à l'école, à l'enseignement des maths en France ou ailleurs.
Alors, c'est une grande question pour un petit moment. Très vite, ils n'ont pas vraiment inventé quelque chose, donc ce n'est pas importé un modèle asiatique. Ils se sont inspirés de pédagogies efficaces qui ont fait leurs preuves pendant des décennies, des pédagogies d'Europe, d'Amérique, d'Angleterre, etc. Donc, par exemple, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'il faut commencer par le concret, par tout ce qui est manipulé, passer par la verbalisation, l'imagé, ensuite passer à l'abstrait, ça c'est Brunner qui l'a dit, Jérôme Brunner, depuis longtemps. Vygotsky a dit, les connaissances se construisent dans le dialogue, les connaissances c'est interactif, c'est en parlant. Eh bien, on a utilisé Vygotsky parce que les élèves résolvent les problèmes ensemble. Un troisième exemple serait Polya. Polya a écrit le fameux livre sur comment résoudre des problèmes. Il faut le comprendre, il faut faire un plan, il faut exécuter le plan et puis il faut valider. Eh bien, ils ont suivi le mode de Polya. Donc, tous, la méthode, moi j'ai adapté, je suis la directrice des premières années CP, CE1, CE2, 2016, 2017, 2018. C'est une adaptation de l'approche de Singapour à la France. Et quand je fais des formations presque tous les jours en ce moment, les professeurs disent, eh bien, c'est logique, c'est ce qu'on a toujours fait. Ça nous parle parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est basé sur les recherches de comment l'enfant apprend, où est-ce qu'il décroche et comment le rattraper. Oui. Donc c'est tout à fait possible.
Pendant que vous parlez, il y a évidemment des messages qui s'affichent. Souleymane nous poste le message suivant de Dakar. Il dit, moi j'ai croisé mon prof de maths au collège dans les rues de Dakar récemment. Subitement, il s'est mis à rire. Il m'a demandé de factoriser un élément. Il m'a rappelé mon allergie face aux mathématiques. Rien qu'en y pensant, j'ai mal à la tête. On a beaucoup, beaucoup de témoignages qui arrivent. On voit bien d'ailleurs que le problème arrive à l'école primaire, qu'il est constant au moment du secondaire, alors que là, pour le coup, on a des professeurs de mathématiques, parce qu'on a beaucoup dit, pour les instituteurs, c'est normal, ils viennent de formations littéraires ou sciences humaines. Donc eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec l'enseignement des mathématiques et c'est aussi de là que vient le problème. Aujourd'hui, si on prend un pays comme la France, un instituteur reçoit quoi, en moyenne 80 heures de formation en maths, en formation initiale. À Singapour, un instit, il en a 400 heures. Est-ce que c'est pas de là aussi que vient le génie de la méthode de Singapour ?
Bien sûr, bien sûr. Lorsque Monsieur Cédric Villani a expliqué à la presse le jour où le rapport des 21 mesures a été donné, le 12 février, il a dit à Monsieur Blanquer, s'il y a une chose sur laquelle tout le monde était d'accord, tous les gens qu'on a auditionnés à la mission Villani de Rossion, c'est que nous avons abandonné nos professeurs et nous ne leur donnons pas assez, ni de quantité, ni de qualité.
On est bien d'accord.
C'est ce que j'ai dit au début.
Il nous reste vraiment quelques minutes. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur. Jean Bédel nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Jean Bédel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philo.
Oui, je suis professeur de philosophie dans un lycée à Libreville.
Oui. On vous écoute, voilà, Jean Bédel.
De mon point de vue, il y a une corrélation qu'on peut établir entre les mathématiques et la philosophie. Bon, bien sûr que je l'ai établi depuis que je suis devenu professeur de philosophie. Mais au départ, lorsque je m'intéressais de près aux mathématiques, le constat que j'ai fait, c'était simplement que les professeurs n'étaient pas à la hauteur. Voilà. Nombreux sont les professeurs de mathématiques au Gabon, qui ne sont pas suffisamment formés.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a un établissement, l'École normale supérieure, qui forme les enseignants, entre autres, des mathématiques au lycée. Mais il y a moins de 100 enseignants qui sortent par année.
Ouais. Vous posez bien le problème, en effet. Et vous faites la comparaison avec la philosophie. C'est vrai aussi que c'est une matière qui fait peur. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Sylvie Desclèbes. Vous formez les enseignants à la méthode Montessori. Par rapport à la méthode de Singapour, quelle est la différence?
Voilà, c'est là, moi, j'ai une question à poser, parce que quand j'entends tout ce qu'on dit sur la méthode de Singapour, moi, je l'ai utilisée dans mes classes et il n'y a aucun matériel. Et donc, les enfants ne pouvaient pas manipuler. C'est très, très lourd. Après, on m'a expliqué que les enfants à Singapour avaient beaucoup plus d'heures de maths que les nôtres, donc ils n'arrivaient jamais à finir. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en place la méthode Montessori dans l'éducation nationale.
Plus accessible, plus simple,
comme
selon
vous dites, puisque le matériel il existe. Quand vous parlez d'A plus B au cube, Maria Montessori, elle a inventé le cube du binôme que les enfants manipulent en maternelle. Ouais. Donc pourquoi
Monica
on met pas
Niagoy,
ça en place?
Il nous reste une minute. On
et
vous
aussi,
écoute.
On reçoit tous les mercredis, toutes les vacances, des professeurs des écoles qui demandent à avoir des formations Montessori quand ils sont formés avec le matériel qu'ils peuvent mettre en classe, qu'ils achètent eux-mêmes ou que leurs écoles financent. Mais souvent, les pauvres, ils achètent eux-mêmes. Et ils sont ravis parce que
c'est une méthode qui est mieux identifiée que la
bien
méthode
sûr,
Singapour.
Mais je comprends pas, parce que nous, on leur montre, ils viennent vers nous.
Monica
et
Niagoy,
après, ils
oui.
mettent en classe et ça fonctionne.
Allons droit au but pour la réponse, Monica Niagoy.
Oui,
Niagoy,
lorsque
s'il vous plaît.
Je donne mes formations, on me dit toujours, mais c'est une belle suite de la méthode Montessori. Parce qu'on travaille avec des cubes, on travaille avec des géoplans pour voir les triangles, on travaille avec le bloc base 10, c'est exactement la suite et c'est ce que j'ai mis dans l'adaptation française de la méthode de Singapour. Tout est dans le matériel pendant longtemps et c'est progressivement qu'on abandonne le matériel de façon progressive jusqu'au point où, lorsqu'ils arrivent au collège, ils n'ont plus besoin de tant dépendre de des matériels. Ça doit être progressif. On ne peut pas enlever et on ne peut pas laisser l'enfant dépendant du matériel.
Mais justement,
ça
Maria Montessori, elle a créé du matériel pour aller doucement du concret vers l'abstrait.
C'est ça. Et c'est exactement la même chose.
Mais moi, je n'ai pas vu le matériel chez Singapour.
Bienvenue à une de mes formations.
Bah oui, mais quand on achète en tant que prof les cahiers, on n'a pas le matériel.
Oui, on est bien d'accord qu'on est sur du papier avec des crayons et ce n'est pas ce qu'on appelle du matériel. Raissa Malou, ambassadrice pour la RDC du Next Einstein Forum et qui participe donc à la refonte des programmes, à l'amélioration de l'enseignement des mathématiques en RDC. Je vous laisse le mot de la fin, il vous reste une minute. Est-ce qu'aujourd'hui, en changeant les méthodes, en formant mieux les profs, on peut réellement avoir des avancées rapidement?
En tout cas, oui, c'est ce que nous voyons avec les premiers résultats, c'est qu'on aura de modifier donc l'approche de l'enseignement des mathématiques. On va mettre l'accent sur la formation des enseignants à cette nouvelle approche, mais aussi sur la formation en termes disciplinaires, parce que non seulement il fallait modifier l'approche pédagogique, donc justement en allant vers plus de concret, mais on s'est rendu compte qu'ils ne maîtrisaient pas la matière qu'ils étaient supposés enseigner. Et donc ici, on doit refaire une formation autant en termes de l'approche pédagogique qu'en termes de la formation disciplinaire des mathématiques. Et c'est cette combinaison avec les activités extrascolaires comme la semaine de la science, etc., comme des musées, qu'alors on peut arriver à oui. développer une culture scientifique, une culture mathématique, à redonner le goût.
C'est ça. Le goût
et en avec, un peu plus.
Et avec un peu de bienveillance. Et là aussi, il faudrait qu'on fasse intervenir les parents. Ça sera pour une prochaine émission parce qu'ils ont forcément eux aussi un rôle à jouer, bannir cette phrase « tu es nul en maths » que tant et tant d'élèves ont entendu. Merci à vous trois, Monica Niagoy, directrice de la nouvelle adaptation de la méthode de Saint-Denis. Singapour au programme français. Sylvie Descleves, apprendre, c'est le programme Apprendre Montessori. Et puis la collection Les Petits Montessori, qu'on retrouve des petits livrets pour appliquer la méthode Montessori aux mathématiques. Et merci à vous, Raïssa Malou, donc ambassadrice pour la RDC du Next Einstein Forum. Entre autres, dans quelques instants, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la revue transculturelle L'Autre et vous nous proposez des conseils et des analyses pour mieux s'occuper des enfants, en particulier des bébés, dans cette série de chroniques à retrouver également en podcast sur RFI.fr. Est-ce qu'on attend les bébés partout de la même façon ?
Alors, partout dans le monde, et même dans les situations les plus difficiles et les plus tragiques, on dit que les bébés sont précieux. On les attend, on les cherche, on demande même à la médecine occidentale ou traditionnelle de nous aider à en avoir quand c'est difficile. Pourtant, j'ai constaté qu'il y a plein de manières différentes de les attendre et de préparer leur venue. Je me souviens de Kadiatou qui a longtemps, comme elle dit, cherché un enfant, cherché un bébé. Elle a consulté aussi bien des médecins, des guérisseurs dans son pays d'origine, au Mali et en France. Elle vient me voir alors qu'elle est visiblement enceinte et me parle de tout sauf de la grossesse. Plus tard...
Ça peut sembler désarçonnant.
Oui, elle fait comme si elle n'entend pas quand je lui demande si tout va bien à propos de la grossesse. Donc plus tard, après la naissance de l'enfant, elle me dira que chez elle, plus les enfants sont précieux, moins on dit qu'on les attend, car cela peut attirer l'envie. Et par ailleurs, elle ajoute en éclatant de rire, « C'est pas nous qui désirons un enfant, c'est lui qui nous choisit. » Jusqu'au dernier moment, Kadiatou n'a pas évoqué la venue de ce bébé, n'a rien préparé, n'a pas choisi son prénom, n'a même pas rêvé de cet enfant. Et quand il est né, elle lui a donné un prénom dépréciatif, un peu négatif, pour que personne ne s'intéresse à lui, ni dans le monde visible ni invisible, c'est comme ça qu'elle dit. Elle voulait être certaine que ce bébé décide de rester avec elle et avec personne d'autre.
Donc dans certaines cultures, si c'est l'enfant qui choisit ses parents, on n'anticipe pas du tout la venue du bébé, donc.
Eh bien non. Nous, on considère qu'il faut imaginer, rêver, préparer les vêtements du bébé ou sa chambre, et que cela est un signe d'investissement positif du bébé. Elle, on dit qu'elle prépare la naissance car elle le désire, ce bébé. Hein ? Ça, c'est comme ça que l'on parle ici lorsqu'on anticipe. Alors que certaines mamans d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou d'Afrique centrale, se préparent sans parler du bébé, sans rien imaginer avant son arrivée. C'est leur manière à elles de protéger leur bébé. Bien sûr, elles vont faire des échographies, mais ces échographies servent à savoir si le bébé va bien. C'est tout ce qu'elles veulent savoir.
On ne va pas plus loin ensuite du côté de la maman.
Et le reste, on ne veut pas savoir. De même qu'elles ne sont pas très favorables à aller à un cours de préparation à l'accouchement. Elles veulent des informations sur comment ça va se passer, mais elles n'ont aucune envie d'anticiper trop la naissance du bébé.
Donc il y a un vrai risque de malentendu.
Ah oui, vraiment. On peut penser que si une maman ne dit rien du bébé à venir,
c'est qu'elle s'en désintéresse totalement. Quoi.
Voilà, qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne l'attend pas, peut-être qu'elle ne le veut vraiment pas. Et parfois c'est le contraire en fait. Il faut donc apprendre à respecter les différentes manières d'attendre les bébés et de ne pas faire violence aux femmes qui font autrement. C'est leur manière à elles d'être une bonne mère ou disons, comme disait Winnicott, une mère suffisamment bonne. On peut attendre un bébé de mille et une façons.
À retrouver Marie-Rose Moreau en podcast RFI.fr à la rubrique émission Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et prochain épisode avec vous Marie-Rose de cette série sur les bébés. Y a-t-il une seule manière de bien s'occuper des bébés ? À très vite. Lundi, 7 milliards de voisins. Allez, on réécoutera notre émission sur les quartiers précaires et les bidonvilles. Faut-il réhabiliter ou expulser ? 1 milliard de personnes sont concernées dans le monde, dans des quartiers très convoités par les spéculations immobilières ou au contraire dans des zones à risque. Les voisins, on verra votre situation dans vos villes respectives. À lundi.